Pour ce cinquième café, pause café organisé à l'occasion du confinement, on peut dire que le confinement a créé quelques belles initiatives, dont cette petite tournée des acteurs solidaires du 92, avec lesquels la Fondation Sainte-Geneviève est liée, et surtout qui ont été super innovants, super réactifs. Pendant la crise sanitaire. Merci de nous rejoindre. On en a pour un petit quart d'heure, une demi-heure, le temps de prendre un petit café ou un petit thé ensemble. Aujourd'hui, on accueille Anne-Marie Bredin, qui est directrice de ASA, Haut de Secours Alimentaire, qui est, je crois, l'unique association qui fait de la distribution alimentaire à un moment où la zone parisienne, Île-de-France, est totalement désertée au mois d'août. Donc, merci d'être là, Anne-Marie. Merci à vous tous d'être là. Je vais laisser à Tiffaine voilà, 2-3 minutes pour nous expliquer comment ça se passe. Et puis ensuite, on ira dans les questions.
Bonjour à tous. Alors maintenant, vous connaissez un petit peu le mode de fonctionnement. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire via le chat et soit Anne-Marie et Virginie y répondront pendant leur échange, soit on se fera une joie de les poser à la fin de l'échange. Et bien évidemment, à l'issue de cet échange, nous vous enverrons les coordonnées d'Anne-Marie, les coordonnées d'Haut de Secours Alimentaire, si jamais vous souhaitiez vous engager personnellement ou si vous pensez que votre entourage peut être intéressé, comme ça vous aurez tous les contacts sur votre boîte email. Voilà. Je vous propose qu'on commence et donc, eh bien, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci. Alors voilà, Anne-Marie, je ne suis pas complètement certaine du titre que je t'ai donné, d'ailleurs. Je crois
Justement, on
que
va
ça
descendre d'un cran.
s'autorise. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots voilà, sur qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à ASA? On dit ASA d'ailleurs.
Oui, on dit ASA, absolument. C'est un peu plus rapide que Haut Secours Alimentaire. Voilà, donc on va descendre juste d'un cran parce qu'il y a un directeur dans l'association qui nous abrite, qui s'appelle Alliance Espérance. Et ce directeur, c'est Philippe Brouhan. Moi, je ne suis que coordinatrice, mais pendant 30 secondes, j'avais un peu de gloire là, j'étais directrice. Et puis, aujourd'hui, on est plus la seule association qui agit, mais on est quasiment la seule. On intervient sur une niche d'activité, déjà sur le mois d'août quand il y a presque plus personne qui distribue de la nourriture et qui distribue des colis alimentaires. C'est pas pareil, parce qu'il reste quelques camions, des Restos du Cœur, des choses comme ça. Les gens aujourd'hui, surtout cette année, arriveront à s'alimenter un chouïa, un peu mieux, quoi. Mais les colis alimentaires, ça correspond à une population qui préfère prendre de la vraie nourriture et non pas une barquette mangée dans la rue, mais ramener à la maison de l'huile, des oignons, du riz, des choses pour cuisiner chez elles. C'est souvent des familles d'ailleurs qui sont concernées. Donc, on remplace tout de même plusieurs centaines d'associations ou des petites épiceries solidaires. On intervient aussi auprès des CASVP, des centres d'action sociale, qui ont besoin d'orienter des personnes au mois d'août. Donc, on est effectivement très présent et on a des chiffres impressionnants parce que subitement, on remplace toute cette activité annuelle. Donc, on est dans des chiffres comme 715 000 équivalents repas servis l'été dernier, 21 000 personnes aidées, 21 000. Quand l'association a démarré, c'était 22 000 par rapport à 715 000. Donc, on va vraiment
22 000
sur le
repas.
22 000 équivalents repas sur le mois d'août
Équivalent repas.
en 1994. Donc,
Et
ça
toi,
remonte.
du coup, tu es tombée dedans toute petite. Qu'est-ce qui t'a amenée là
Alors,
initialement?
c'est quelque chose qui me tient à cœur. Déjà, je suis une maman italienne. J'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup la nourriture et je n'aime pas la souffrance. Et donc, même avant de connaître ASA, je faisais, quand j'avais du temps, le week-end notamment, un peu d'aide alimentaire. Bon. Mais j'ai rencontré Asa il y a 5 ans. J'étais bénévole au mois d'août pendant 3 ans. J'ai beaucoup aimé ça. Et donc, on pose les vacances. Et au lieu d'aller partir en vacances, on part chez Asa, qui est vraiment une expérience formidable. Et il y a 2 ans, on m'a proposé un poste pour remplacer une secrétaire qui partait. Je suis l'unique salariée d'Asa à mi-temps. Et c'est un projet qui dure toute l'année. On met presque 11 mois pour préparer la saison qui démarre, la campagne qui démarre d'ailleurs le 15 juillet. On a un mini-centre, une mini qui sert 600 personnes quand même, tous les jours, du 15 juillet jusqu'au 31 juillet. Tous les jours sauf le dimanche. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que dès le mi-juillet, il y a déjà des besoins parce que beaucoup d'associations commencent à fermer pour l'été. Quoi dire d'autre?
Et quand tu dis qu'il vous faut 11 mois pour préparer l'été, pourquoi en fait?
Alors, parce que on n'a pas d'équipe. Alors, c'est marrant, parfois je signe l'équipe ASA. Je suis l'équipe ASA. Vous voyez tout de suite l'équipe ASA. L'équipe ASA, vraiment, c'est 450 personnes au mois d'août. Mais sinon, oui. Une personne à mi-temps va s'occuper en septembre des statistiques, un retour vers les associations sur qui est venu, à quelle fréquence, organiser des réunions de retour d'expérience avec les chefs de centre. Il y a les demandes de subventions, parce que sans les subventions, on serait très mal. Il y a aussi des lettres à envoyer aux donateurs. Il y a les réservations de centres pour l'année d'après. Il y a la recherche de bénévoles. Enfin, la liste est longue, il y a plein de choses à faire. Des approvisionnements, bien sûr, négociation des prix pour avoir des produits, des qualités à pas cher. On a vraiment, on chôme pas du tout. Mmh. Mais c'est passionnant. C'est une entreprise, finalement, pour pouvoir faire cette logistique-là. Il faut aussi avoir des chariots élévateurs. Il y a des machines qu'il faut avoir pour mettre à disposition les produits. Donc, c'est énorme pour répondre à ce besoin ponctuel sur un mois et demi, représentant... On n'est pas très, très loin du million de repas quand on y pense. 715 000, c'est énorme. Et cette année, on pense que ça va être un tsunami de
beaucoup plus. Bon, oui, on y reviendra sur cette histoire de la crise sanitaire. Mais juste en 2-3 mois, est-ce que tu peux nous brosser la logistique, le nombre de centres, le nombre de kilotonnes de je ne sais pas quoi
Oui, avec voilà, plaisir.
Qu'on imagine un peu ce que c'est en fait.
Alors, ASA, c'est donc une opération sur un mois sur 9 centres. Alors, un centre en juillet est pris sur le mois d'août. Il y a 4 centres sur Paris, dans le 13e, 15e, 18e et 20e. Et également en région parisienne, à Colombes, Pantin, Villejuif et Créteil. Voilà. Donc, on est représenté dans le 92, 93, 94. Il y a forcément des notions de développement, de demande qui nous sont orientées. Donc, ce n'est pas exclu, moyennant bénévoles et financement, qu'on continue à croître parce que les besoins continuent malheureusement à croître. À propos du tonnage, l'année dernière, on a distribué 412 tonnes de nourriture. Alors, ce sont des boîtes de conserve en partie parce que ça se transporte bien et ça se conserve bien, mais également des fruits, des légumes, des œufs et 10 tonnes de pain pour la petite histoire. Ça va loin parce qu'on a des telles quantités. J'ai fait ce chiffre-là en feedback après une réunion avec les chefs de centre. On ne s'attendait pas à ce que ça devienne 10 tonnes de pain parce qu'on voit chacun son centre. Dans chaque centre, il y a une 50aine de bénévoles qui œuvrent pour recevoir à peu près 800 ou 1000 personnes par jour. Et ce sont des centres qui sont ouverts un jour sur deux maintenant. Il fut un temps qui ne remonte pas très loin où le centre était ouvert tous les jours. Ce qui est très bien parce que l'idée, c'était de créer du lien.
Oui.
Je viendrai quand même sur l'ADN d'ASA. ASA a été créé par un diacre qui s'appelle Pierre Lannes, qui est toujours en vie, qui est plutôt jeune. Il a créé cette association en 1994. Et l'idée, c'était surtout d'accueillir des personnes avec beaucoup de chaleur. C'était de créer du lien plus que la nourriture. Ça allait avec, mais des personnes venaient passer beaucoup de temps sur les centres. Ça devient un peu plus compliqué, surtout cette année, où les gens ne vont pas rester des heures, mais en règle générale, il y a l'offre alimentaire, il y a de l'accueil très chaleureux, il y a des buvettes, il y a des jeux pour les enfants. C'est un moment où on peut passer l'après-midi. Donc, il y a toute cette philosophie qui nous anime. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a les mêmes bénévoles depuis des années aussi. Alors, on commence à avoir des bénévoles qui ont 86 ans, 90 ans. Ah. Ça, c'est... ils tiennent à venir et c'est un moment très, très sympa. D'ailleurs, vous êtes tous invités à passer quelques minutes sur un centre ASAP pour comprendre. C'est une ruche. Il y a une grosse
logistique, effectivement. C'est grand, les locaux dans lesquels vous vous installez sont des locaux qui vous sont prêtés par la mairie?
Non, alors ce sont des locaux qui sont prêtés par les paroisses, parce que la maison paroissiale, par sa nature, est en général plutôt bien faite, à savoir qu'on a des grands espaces pour recevoir toute l'année des personnes. Donc, nous, il nous faut 200 mètres carrés minimum. On trouve donc des grands espaces qui sont libres au mois d'août, qui ont de l'eau, de l'électricité. On peut faire notre fameuse buvette parce qu'on a accès à de l'eau et des cuisines. Ça s'y prête parfaitement. Et ce sont des locaux qui nous demandent pas de participer financièrement. Donc, c'est vraiment appréciable parce qu'on est vraiment une toute petite association. On est pauvre. On demande les subventions et les donateurs qui sont très généreux. Il y a plus de dons que de subventions d'ailleurs, les donateurs privés. Ça couvre juste les besoins de la nourriture qu'on achète et de la location d'un chariot élévateur et des très petites choses. On a peu de moyens. D'ailleurs, il faudrait qu'on développe un peu nos méthodes de communication parce qu'on n'a pas de responsable de la com et on est très peu connu alors qu'on fait quelque chose d'énorme. Et nous-mêmes, avec le conseil d'administration, on ne s'était pas rendu compte à quel point on était énorme. On est numéro 2 après les Restos du Cœur en aide alimentaire. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on se fasse connaître parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de besoins. Et les associations qui ne connaissent pas, quand ils nous découvrent, sont ravis d'avoir une solution. J'en ai encore eu ce matin, quelqu'un qui a appelé pour dire « je ne sais pas comment faire ». Alors, c'était à Courbevoie. Et c'est la Banque alimentaire qui a donné nos coordonnées. Voilà.
Ah oui, et du coup, justement, avec combien d'associations êtes-vous liées?
Alors,
et
c'est glissant.
Faut-il avoir une… je ne sais pas, est-ce que vous avez un agrément particulier? Enfin, voilà, cet environnement un peu économique, juridique. Est-ce que tu pourrais nous le décrire rapidement?
On est resté très simple. On a travaillé par le passé avec à peu près 200 organismes, mais c'est très fluctuant. Il y a des associations qui disparaissent, qui sont avalées par d'autres, des personnes nouvelles comme aujourd'hui cette association qui s'appelle La Vie Saine, je crois, qui va nous envoyer 53 familles. Donc, il n'y a rien qui nous dit physiquement, on n'a pas de contrat ou de convention avec les associations. C'est un coup de fil. Je suis telle association, je suis un CAFDA, j'ai des familles qui cherchent, on rentre un peu dans le détail, on dit, mais on peut les accueillir. Donc, c'était un partenariat très soft, si ça répond à la question. C'est facile de travailler avec nous. Après, la parution de cette année de Soliguide va nous aider. On a des nouvelles demandes et des nouvelles offres de bénévolat. La Fabrique de la Solidarité qui se trouve à Paris nous a sollicité pour qu'on raconte qui on est. Et j'ai déjà des demandes de bénévolat, des offres qui tombent. Donc, il ne suffit de pas grand-chose pour être connu. L'idée, c'est d'offrir vraiment cette aide primordiale et ces attentions et ce soutien aux personnes dans le besoin, là où il y a un creux en été. Donc, plus on est connu, mieux c'est. Et après, il faudrait que les donateurs suivent et les subventions suivent. Mais les bénévoles suivront toujours parce que c'est une action qui les anime vraiment.
Et du coup, les bénévoles, y a-t-il une formation particulière? Comment faut-il faire pour venir vous aider?
Alors, c'est très souple. La formation se fait sur place. La logistique, il s'agit de créer des colis repas, donc on leur explique comment faire. On fait une réunion à chaque fois de quelques minutes pour dire voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà qui on est, voilà qui on accueille, parce qu'il y a toujours des nouvelles têtes. On a un socle, un noyau dur qui connaît tout par cœur, ce qui est bien pratique parce qu'on peut également, si le chef de centre est un petit peu occupé, dire je vous mets entre les mains de telle et telle experte qui va tout vous expliquer. Mais c'est simple, c'est on constitue des colis et après on les sert. C'est surtout l'attitude qu'on doit avoir qui est importante. Donc, c'est là où on briefe les personnes qu'on est face à une population fragile et nous souhaitons leur donner un soutien et pas les recadrer. Il faut vraiment avoir la ASA attitude. J'ai un terme dont j'ai hérité quand je suis arrivée. Parfois, il faut arriver à dire non à certaines personnes qui veulent échanger plein de produits ou qui veulent faire quelque chose qui n'est pas dans le programme. Et on doit dire non, mais avec une affectueuse fermeté. On le dit gentiment, respectueusement. Donc, c'est tout un état d'esprit. Voilà.
D'accord. Et vous avez besoin, du coup, tu disais, il faut 50 bénévoles, 9 centres. Donc, à peu près 500 bénévoles, 450, 500 bénévoles.
C'est ça, pour que ça se passe très bien. parce qu'on a des points d'accueil, un point vers l'ordinateur, on a besoin de l'intendance, couper le pain, il y a une ouvreuse de sacs en plastique parce que ça prend un temps fou. Vous connaissez les petits sacs en plastique comme au supermarché, vous n'arrivez pas à les ouvrir. Quand il faut en ouvrir, on 800 en très peu de temps, c'est pratique qu'elle soit, que le sac soit pré-ouvert. Donc, des personnes qui préfèrent faire une tâche assise, ben, on va choisir une dame qui va, ou un monsieur qui va ouvrir pendant une heure tous les sacs. Et comme ça, quand on fait notre petite manutention et on remplit les sacs, c'est déjà ouvert. Voilà. Il y a des tâches pour tout le monde. Mais il faut bien une cinquantaine pour que ça soit confortable.
D'accord. Alors, j'aimerais que tu reviennes rapidement sur ces 3 mois un peu extraordinaire qu'on a vécu.
Oui,
est-ce qu'on a fait appel à vous alors que vous, en principe… Ah oui, d'accord.
Je ne m'y attendais pas d'ailleurs. Ça m'a fait très bizarre vers le 18 mars d'avoir des mails des associations d'ailleurs qui ont dit « Est-ce que ASA est ouvert maintenant ?» Parce que dans l'esprit des personnes, ASA intervient quand tout est fermé. Et les gens ont fait un raccourci et ils n'ont pas pensé au mois d'août. Mais ASA, c'est quand tout est fermé. Et j'ai été consultée par le diocèse, par la ville de Paris, la DASES, et par des associations, presque tous en même temps, qui disaient « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Appelons ASA. » Donc, on a sorti la cape. on a été très surprise. On n'avait pas de stock, on n'avait pas de financement. Et pour faire court, on a eu de superbes opportunités. Le diocèse nous a trouvé une première école qui s'appelle l'école Stanislas, qui est dans le sixième. Vers Montparnasse, et cette école était disponible, avait les locaux pour, des chambres froides pour, et même des bénévoles qui habitaient sur place parce qu'il n'y avait pas cours, donc plein de jeunes bénévoles. En passant, le diocèse avait réuni 1600 bénévoles, et ASA était appelé pour les approvisionnements, la méthode, les compétences, et je me suis déplacée en moins de 48 heures, on avait monté un centre. Et ça produisait 1600 sacs tous les jours. Sur la période des 3 mois, 185 colis ont été distribués. Et à un moment donné, c'était triste, l'école Stanislas rouvrait, donc il fallait qu'on aille ailleurs. Donc on était allé dans une autre école catholique qui s'appelle l'école Franklin, dans le 16e, et ça a duré plus d'un mois. Et maintenant, on est dans une école professionnelle dans le 17e, et ça continue. En fait, on a été sollicité pour remplir des sacs et même livrer des familles, donc ça va très loin.
Ah oui.
Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'on peut avoir en très peu de temps des bénévoles très, très investis, très efficaces. Et du coup, je leur ai même piqué des idées que je vais utiliser sur les centres cet été parce qu'ils avaient des idées pour aller plus vite. Et une comparaison, c'est que nous, on met 2 heures dans un centre ASA classique pour faire 800 sacs. Et là, en 2 heures, ils faisaient 1600 sacs. Même pas fatigué. Donc, il y a des choses à apprendre au niveau de productivité, même si ce n'est pas le but, mais c'est toujours intéressant.
Ah oui, oui, voilà. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez des envies de… Enfin, très certainement, vous avez des envies de développement, mais peut-être des perspectives un peu planifiées, programmées de développement,
oui, alors,
de votre action ou en dehors de juillet-août ou peut-être nationalement, internationalement.
Alors, sans parler de l'international, on dit en anglais think big, start small. Alors, on pense grand, mais le but, c'est pas de développer comme dans une entreprise, mais le but, c'est de répondre à une demande. Le but, c'est vraiment de répondre à des besoins énormes en ce moment. Nous avons été consultés l'an dernier par une personne qui travaille dans une structure comme des Restos du Cœur. Il était à Lyon. On a eu des demandes sur Bordeaux. Dans le sud, je vais dire Montpellier récemment, mais je crois que c'est plutôt Nice. Et là, une demande très réelle, c'est dans le 93, il y a aussi bien Aubervilliers que Montreuil qui ont des demandes énormes. Et notre centre de Pantin ne peut pas accueillir 3000 personnes, par exemple. Donc, ça devient consternant parce qu'il y a des besoins vitaux qu'il va falloir traiter. Et notre solution est tellement simple d'utilisation. C'est vrai que moyennant, on ne va pas se leurrer, moyennant finance et trouver des bénévoles, ça se trouve assez facilement. Ça va être le financement pour avoir plus de nourriture, pour nourrir plus de personnes. Mais si on reste sur des principes de mise à disposition gratuite des locaux qui sont rendus nickel à la fin, je veux dire, c'est vraiment, c'est que du gratuit, quoi. Et que la nourriture. Et même là, on développe des systèmes avec des groupes WhatsApp de bons plans pour avoir des surplus de nourriture qui sont gratuites même. Donc, il y a des belles choses à développer. Et très vite, pas pour le plaisir du développé, mais pour les besoins de répondre à des problématiques préoccupantes. Ouais. Mmh,
mmh. Et du coup, sur cette question-là, comment communiquez-vous la solution que vous proposez auprès de, auprès des bénévoles, auprès des financeurs? Comment ça se passe? Comment on peut vous aider d'abord pour répondre à la demande immédiate, mais également pour vous accompagner dans la création de nouveaux centres? De quoi auriez-vous besoin?
On a besoin de financement. Un centre coûte à peu près 50 000 euros pour des centres de banlieue. Donc, ça comprend tout, logistique et nourriture et les contenants. On a besoin de bénévoles de mieux en mieux formés, je dirais, parce qu'on a toute une magnifique un vivier de bénévoles, mais qui sont en partance pour des raisons d'âge. Certaines disent je viendrai mais je pourrai pas apporter, enfin voilà, ils commencent à être physiquement un peu limités mais attachés à l'action. D'autres, cette année, des enfants, des parents ne veulent pas qu'ils viennent parce qu'ils veulent pas qu'ils s'exposent. On va bien évidemment respecter tous les gestes barrières, ça c'est pas un souci, mais trouver des nouveaux bénévoles qui peuvent s'engager dans la durée, communiquer là-dessus, c'est par tous les moyens, ça pourrait nous aider. On a besoin de chefs de centre, un renouveau, parce qu'on a beaucoup de chefs de centre qui partiraient bien en province faire autre chose, qui sont déjà à la retraite depuis longtemps, mais s'occuper des petits-enfants. Et puis, ça, c'est quand même éprouvant sur le mois d'août. S'y coller un mois entier, si on peut avoir un peu de renouveau à ce niveau-là, c'est même pas si, c'est qu'il nous faut un peu de sang neuf, et même des backups, comme on dit, des personnes en remplacement. L'an dernier, on a un chef de centre qui s'est cassé le pied, qui a travaillé avec une béquille, c'était un peu compliqué, mais c'est fragile quand on n'a qu'une seule personne qui gère cette mini-entreprise. Un peu comme toutes les associations, on n'invente rien, de l'argent, des bénévoles, des locaux, c'est sûr qu'avec ça, ça roule. Parce que le besoin est là, on n'a pas besoin de créer du marketing pour trouver le besoin, il est absolument là.
Et du coup, le diocèse fait de la pub, j'imagine, les diocèses.
Oui, sur leur site, oui, tout à
d'accord.
fait.
Oui. D'accord.
Ça nous amène même des séminaristes en bénévole cette année, c'est génial.
Ah oui, d'accord, ok, ça c'est sympa.
Je pense que l'opération Covid nous a aidés, on est beaucoup plus connus cette année, je croule sous les offres de bénévolat, donc ça c'est chouette, c'est beaucoup de jeunes personnes. Quelque chose a été publié quelque part, mais là, depuis deux jours, j'ai beaucoup d'offres.
Tant mieux. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions et des choses que tu vois, dont tu aimerais nous partager, peut-être une petite expérience ou... D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, en ce moment, à 10 jours de l'ouverture, de la grosse ouverture, comment ça se passe? C'est quoi ton quotidien?
Déjà, je prie. Je prie pour que tout se passe bien parce que c'est fragile. Tout est rodé et s'il y a un grain de sable, par exemple, là, ce matin, j'ai blindé le fait que tous les bacs, les gros bacs poubelles pour le recyclage qu'on a commandé soient bien présents parce que sans ça, on est très embêtés. On défait des tonnes de palettes et il y a beaucoup de films, de papier, de carton. Il faut bien qu'on mette ça quelque part. C'est pratico-pratique. Donc, il faut s'assurer que les choses marchent bien, surtout cette année où tout le monde est un peu encore en télétravail. L'année dernière, l'anecdote, on avait réuni tout le monde à 6h du matin. Il faisait déjà très chaud pour un déchargement de plusieurs camions. Et malheureusement, notre petit chariot à vélateur qu'on loue est arrivé à 9h du matin. Donc, tout le monde est... L'élan était un peu tombé. On est tous là, après, dans les starting blocks à décharger et on a attendu 3h. Ce sont des aléas du direct. Hein. Il y a eu un petit problème technique. Et donc, c'est la période où on rabâche, on appelle tout le monde. On dit, c'est sûr que la livraison arrive, c'est sûr que les bénévoles sont engagés. Vous venez bien à telle heure. Donc là, c'est du fine-tuning, comme on appelle ça. Et puis, il y a des petits achats de dernière minute. On a tous les masques qu'il faut, le gel, les gants, les visières, c'est des nouvelles choses. Donc, c'est du peaufinage, quoi, dans ces derniers jours. Voilà.
Ah là là. Et quel est le pourcentage de bénévoles que tu retrouves, du coup, cette année? Peut-être moins, ça a peut-être été plus compliqué.
Oui. Cette année, on a des bénévoles qui sont attachés à cette cause et qui nous appellent en disant vraiment j'aurais voulu, mais je ne peux pas. Voilà. Et donc, le pourcentage habituel, je n'ai jamais calculé le pourcentage, mais ça doit être 75% de personnes qui reviennent constamment. c'est vraiment nouveau d'avoir besoin de faire appel à des bénévoles. En général, on écrit toujours à ceux qui viennent, est-ce que vous venez cette année ? Ils disent oui. Donc, c'est complètement différent. Cette année, on a beaucoup d'offres gratuites et on leur dit, mais venez parce qu'on vous attend, on a besoin. Mm-hmm. Donc, c'est très différent. Oui, je pense que peut-être 50% de nos bénévoles qui ont plus de 70 ans ne viendront pas. Et il y a quelque chose qui change un peu cette année, c'est à cause du Covid, on ne va plus faire tout à fait dans les mêmes dimensions le temps d'accueil, assis en face à face, dans les espaces clos. On va faire des choses un petit peu plus rapidement. Et donc, classiquement, les bénévoles qui faisaient ça étaient assis et donc les personnes plus âgées étaient dans une posture un peu plus relaxe, accueillies. Et puis, les gros bras étaient derrière à faire porter les gros sacs parce que c'est très lourd, ce scandale. Voilà.
D'accord. Et oui, donc autre chose est peut-être de la formation, des choses comme ça qui vont vous être imposées davantage cette année, quoi. En fait.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, on est accompagnés gratuitement et gentiment par quelques personnes d'Action contre la faim qui sont venues déjà l'année dernière nous aider à faire. Une étude que j'ai toujours voulu faire sur ce qu'on donne à manger, parce qu'on achète ce manger, donc autant que les personnes l'apprécient. Et on a eu des surprises ou alors des confirmations de ce qu'on savait déjà. Et donc, on a changé nos menus. Il y a des choses qu'on n'achètera plus parce que ça, c'est plus tellement à la mode. Et puis, des choses qu'on achètera plus, comme des fruits, des légumes et de l'huile qui aide. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes sans huile ont du mal à cuisiner. Donc, on a amélioré le menu. Et ces mêmes personnes d'Action contre la faim reviennent. Donc, ils apportent également des bénévoles formés qui parlent plusieurs langues. Et donc, au niveau accueil, c'est très, très chouette. Et on fait aussi un rôle d'orientation. S'il y a des questions, il y en a, qui dépassent les besoins en nourriture, mais plutôt du vestiaire, du logement, du travail. Enfin, l'idée, c'est de les aider à les orienter vers des personnes qui pourront mieux les répondre.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'avais quand même une question sur le profil des bénéficiaires, parce que j'imagine qu'avec le confinement… On entend dire qu'il y a une nouvelle grande précarité familiale, etc.
Tout à fait.
Est-ce que tu confirmes ça ? Et
tout
comment justement tu prépares tes bénévoles à les recevoir pour qu'ils soient reçus dignement, puisque j'ai compris que c'était un des éléments
c'est un super point. Chez vous. Les personnes habituellement qu'on recevait jusqu'à l'année dernière, on a un petit volant d'étudiants, mais pas trop. On a des personnes qui ont des petites retraites, mais ça suffit pas. Donc, ce petit complément de nourriture les aide énormément. Beaucoup de familles mères seules, des gens de rue, très, très pauvres. Mais ces nouveaux foyers précaires, c'est compliqué parce qu'il y a une histoire de… Ça coûte de venir faire la queue. On l'a vu pendant le Covid et ils étaient très gênés. Il y avait des paroissiens, par exemple, qu'on connaissait qui venaient à l'église, on ne savait pas qu'ils étaient dans l'église. Et quand on discute avec eux, il faut une grande délicatesse parce que c'est une épreuve de passer d'une vie un peu normale. Bon, c'était des personnes souvent qui étaient à la lisière de la pauvreté, mais là, effectivement, il y en a beaucoup. On attend beaucoup de nouveaux foyers précaires. Donc, on ira avec cette gentillesse et respect discret qu'on cultive de toute façon.
Dont vous avez l'habitude, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, Tiffaine ? Combien de temps nous reste-t-il ?
Alors, il nous reste pas très
longtemps. Je vais fermer la porte, ne quitte pas. Voilà. Vas-y.
Il y a une question pour toi, Anne-Marie, mais tu as répondu d'une certaine manière, mais peut-être pas de manière assez précise. Le Soliguide aimerait beaucoup savoir comment est-ce qu'il pourrait vous aider à vous faire connaître de manière plus large. Donc,
D'accord. Bah, déjà, j'ai regardé on a reçu un message de la FAS hier de Gabriel Vizier, il y avait un lien sur le Soliguide et je dis, je vais aller voir si on y est. Donc, j'ai vu qu'on y était, mais je pense qu'il y a des corrections à apporter. Il faut qu'on travaille ensemble au-delà de cette réunion. On peut peut-être envoyer des visuels, des photos, mais améliorer les descriptifs parce que j'ai l'impression que ce qui est publié a été fait un peu rapidement, peut-être avec les éléments que j'ai dû fournir ou que quelqu'un d'autre a fourni, mais déjà développer ça dans le support parce que le Soliguide lui-même, pour moi, il est un peu nouveau et c'est un excellent outil. Donc, déjà, améliorer le contenu. Ce serait avec grand plaisir et on peut me contacter après cette réunion sur le mail outsecoursalimentaires@wanadoo.fr et ou me téléphoner. C'est ce que je vous donne tout de suite mon téléphone.
Si vous voulez, elle vous écoute.
Notez bien, c'est 06 76 81 39 72. C'est un support vraiment excellent. Donc,
le téléphone ou SoliGuide, les deux?
Non, non, le
SoliGuide, pardon. Noté, mais bien sûr. Non, mais je viens de noter le numéro sur le chat. Il n'y avait pas d'autres questions, donc je pense que voilà, ça a été un tableau dépeint parfaitement qui explique exactement votre action et surtout votre investissement incroyable.
Alors moi j'ai quand même une question, c'est quel va être le prochain centre? Est-ce que Lyon, Bordeaux, Montpellier, laquelle de ces villes?
Je me demande, Bordeaux m'étonnerait pas parce que notre directeur a des projets de prendre sa retraite et il va sur Bordeaux. Ça, c'est juste un scoop. Rien n'est lancé pour l'instant, mais il y a des besoins dans le 92, il y a des besoins vers Nanterre, vers Cergy, il y a vraiment des besoins aussi parce que Colombes a eu énormément de monde l'année dernière. Donc, je pense qu'on n'irait pas forcément si loin pour des besoins. Mais bon, il y a pas d'endroit fixé pour l'instant, mais c'est certain qu'il y en aura d'autres parce que pour ce que je voudrais retenir, c'est comme il y a quelques personnes qui écoutent là, c'est pas forcément de faire de la pub pour hasard, mais quand vous avez des personnes, vous entendez parler des personnes qui sont en difficulté, de savoir qu'on existe. Parce qu'on est une solution parmi d'autres, mais on est vraiment une solution assez facile d'accès. Pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc, notre plus gros problème, c'est que parfois, les gens ne savent pas qu'on est là.
Parlez-en. Est-ce que vous avez un centre? Vous n'avez pas de centre à Rueil-Malmaison, c'est la question?
Non, non, non.
Et donc, le plus proche de Rueil, c'est Nanterre? C'est Colombes?
C'est Colombes.
Oui, c'est ça. D'accord.
Donc, ça fait un peu loin après, mais voilà. Là, à Courbevoie, ils nous envoient 53 familles. Ça date de ce matin, mais ils étaient contents de trouver une solution. Et c'est la Banque alimentaire qui a dit, il y a toujours hasard, contactez-les. Et donc, ils nous ont contactés, on a dit d'accord.
La Banque alimentaire étant un très gros fournisseur d'ASA, j'imagine.
Oui, énorme, énorme. Oui, heureusement qu'on les ait. C'est un peu notre base, notre socle. Ils nous font une dotation. Ce n'est pas une donation parce qu'on paye un prix symbolique, mais une dotation sur laquelle on bâtit, on complète nos menus autour de cette dotation, bien sûr.
D'accord, d'accord. Une dotation pour un mois et demi, en fait.
Exact, oui.
D'accord. Et dans le cas du Covid, j'imagine que ça a été pareil ou alors…
Ça a été pareil, ils nous ont bien aidés. Bon, ce qui change cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes auprès de la Banque alimentaire, donc leurs stocks sont un petit peu vides en ce moment. Donc, au lieu de… on attendait, on va avoir 60 palettes de lait en moins, par exemple, parce qu'il y a plus.
Oui. D'accord.
Il y a des impacts. Le Covid est passé par là, ça se sent au niveau des approvisionnements.
Oui. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais souligner ou dire à nos participants là pour clore?
Moi, je dirais juste merci parce que je trouve ça sent. On s'intéresse à cette petite association qui est microscopique, qui arrive à faire des belles choses avec très peu de moyens, vraiment. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés à vous intéresser à notre sujet, mais merci d'être là et faites un peu de pub autour de vous sur ce qu'on fait. C'est tout ce que j'ai à dire.
Et puis, n'hésite pas à interroger la Fondation Sainte-Geneviève dans le cadre des nouveaux projets à venir, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Et voilà, nous, on est tout à fait prêts à étudier le déploiement à venir. Hein. Oui.
Ça ne tombe pas dans l'écouteur d'une sourde, j'ai bien entendu.
Mais merci à tous, en tout cas. Donc, on a bien ton numéro de téléphone, on a le contact. N'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, à nous appeler aussi à la Fondation si jamais vous aviez perdu l'info. On n'a pas de nouveau rendez-vous fixé d'ici le mois de septembre. C'est notre dernière pause café.